Monsieur Sylvestre Ntibantunganya, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien président du Burundi et vous êtes à la tête d'une mission d'observation. Vous êtes à Kigali, vous avez suivi les déroulements des élections présidentielles. Quelle est votre observation sur le déroulement de ces scrutins?
En fait, moi, je suis à la tête d'une mission de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et de l'autre côté, il y a une autre mission de la COMESA. Nous allons travailler en synergie pour les dire. Alors, le constat que nous faisons, c'est que d'abord, les populations rwandaises ont répondu massivement à ces élections. La participation après était de 100%, je pense. En deuxième lieu, ce type d'élection qui s'est déroulée dans le calme et dans la sécurité, nous n'avons enregistré aucun incident qui nous ait été rapporté par qui que ce soit. En troisième lieu, c'est une élection qui avait, pour les juger également, un caractère festif au vu de comment les lieux de vote étaient organisés, étaient préparés. On avait une banderole à l'entrée de ces bureaux de vote, mais également il y avait une organisation telle de bureaux de vote qu'on se croirait même dans un salon. Je dirais aussi que nous avons quand même fait de petits constats considérés comme anomalie, notamment une sorte d'absence de représentants des autres partis qui le font pour le patriotisme rwandais dans les bureaux de vote. Mais globalement, l'élection s'est bien passée, d'autant plus que même la commission électorale nationale a proclamé assez rapidement le résultat partiel. Et nous avons constaté à ce moment-là que tous les partis ayant participé à ces élections ont accepté ces résultats. Voilà, grosso modo, que nous pouvons dire de ce que nous avons constaté.
Quel est le véritable enjeu de ces scrutins quand on sait que les candidats Kagame n'avaient visiblement pas de concurrents sérieux?
Moi, je crois qu'il y a des responsabilités à ce moment-là qui lui sont davantage conférées, parce qu'on sait le contexte dans lequel se trouve le pays qu'il dirige. C'est un pays qui a beaucoup souffert, vous le connaissez bien, de cette affaire génocide de 1994. C'est un enjeu majeur, bien sûr, c'est la poursuite de la politique de réconciliation nationale et des politiques qui doit être à la fois, c'est un avis à moi, qui doit être à la fois pensé et en conscience de cause par rapport à ce problème de génocide, mais également une politique de démocratisation qui doit également être organisée de manière à contrer pour jamais le génocide dans ce pays. Vous voyez donc que l'enjeu n'est pas simple, elle est très importante.
Est-ce que y a-t-il là un exemple à suivre en Afrique? Je veux dire, ces élections rwandaises permettent-elles à l'Afrique ou à d'autres pays africains de suivre un exemple?
Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être effectivement bien analysé. C'est cette volonté de prendre autant que faire se peut tout ce qui concerne le processus électoral en charge. Et nous avons été impressionnés par exemple, le bénévolat qui marque l'intervention des agents des bureaux de vote, alors que dans beaucoup d'autres cas, comme le Burundi d'aujourd'hui, les bureaux de vote sont payés. Et nous avons également constaté cette participation massive. Je pense qu'il faudrait que partout en Afrique, les citoyens pensent qu'une élection, c'est l'occasion qui leur est offerte pour exprimer leur point de vue, pour exprimer leur position sur comment ils doivent être gouvernés.
Qu'est-ce qui vous a frappé personnellement dans l'organisation de ces scrutins?
Bon, par rapport, par exemple, aux élections qui ont été organisées au Burundi, autant en ce qui concerne les présidentielles que les élections communales ou les élections de députés, vous savez qu'il y a eu un grand débat au Burundi en ce qui concerne le bulletin à utiliser. L'opposition était partisane à l'époque du bulletin unique, alors que le parti au pouvoir militait plutôt pour des bulletins multiples. Avoir trouvé au Rwanda que pendant cette élection présidentielle, on a fait usage d'un bulletin unique peut servir de leçon au Burundais qui partagent beaucoup de réalités avec les Rwandais. Et moi, je pense qu'en cette matière, ce qui est possible au Rwanda devrait également l'être au Burundi, surtout quand il résout pas mal de problèmes, comme d'aucuns le connaissent en ce qui concerne son caractère de bulletin.
Avec tout ce que la région des Grands Lacs a connu, vous, en tant qu'ancien président burundais, pensez-vous qu'il y a vraiment à espérer que ces pays peuvent travailler ensemble?
Ma conviction est que, d'abord, quand on a autant de proximité qu'il y en a dans la région de Grand Lac, autant en ce qui concerne des aspects positifs, des aspects négatifs, l'on est dans l'obligation de trouver des voies de rencontre plutôt que des voies de discorde. Je pense donc que les leaderships de nos pays ont le devoir de chercher ces voies, de les mettre en application, de les consolider. Nous avons à imaginer un avenir commun parce que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus un monde mondialisé. Passez-moi cette tautologie et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a un seul pays qui peut dire je peux m'organiser en faisant cavalier seul.
Pour terminer, M. Sylvestre Ntibantunganya, est-ce que la démocratie a des beaux jours devant elle en Afrique?
Bon, la démocratie en Afrique deviendra ce que les Africains voudront qu'elle devienne. Et moi, je crois qu'il n'y a aucun peuple qui soit à lui-même aussi dans la démocratie. Et par ailleurs aussi, nous avons des exemples assez encourageants en matière de démocratie en Afrique. Cela m'amène à dire que la démocratie a un avenir et que cet avenir-là, nous avons le devoir de le penser, de l'organiser, de le consolider.
Un mot de la fin?
Un mot de la fin, c'est de dire, écoutez, il faut que les peuples africains et que les leaders sachent que l'avenir de leur pays se trouve dans la liberté dans tous les secteurs, la liberté politique, la liberté économique, la liberté sociale. Voilà.
Monsieur Sylvestre Ntibantunganya, je vous remercie.
Merci beaucoup.